Radio Star, la web radio de Saint-Amand.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Star, la web radio du Collège Saint-Amand. Après quelques semaines de préparation, nous voici enfin de retour pour la toute première émission de cette année scolaire, avec pour m'accompagner à la présentation, Pablo.
Bonjour Pablo. Eh oui, avec toute notre équipe, nous avons concocté un très beau programme et il y en aura pour tous les goûts.
On commencera bien sûr par l'actu Saint-Amand, avec la présentation de l'atelier web radio, un petit retour sur le voyage de Normandie des 4e, et enfin, quelques précisions sur la réforme du brevet pour les élèves de 3e.
Place ensuite à l'actu mondiale avec une chronique sur le vol qui a eu lieu il y a quelques semaines au musée du Louvre, mais aussi sur un autre vol qui a eu lieu au même endroit il y a de nombreuses années, celui de la Joconde.
Pour cette nouvelle année, nous avons décidé de vous proposer également un petit débat sur un sujet d'actualité. Et pour commencer, puisqu'il est question que les élèves de Saint-Amand portent un uniforme l'an prochain, nos journalistes débattront du port de l'uniforme à l'école, pour ou contre.
La Minute Anglaise nous apprendra ensuite quelles sont les origines du Black Friday, ces grosses réductions qui nous ont encore fait dépenser tout notre argent fin novembre.
Puis, dans notre nouvelle rubrique sur les cultures du monde, nous irons à la découverte de l'école au Japon qui ne ressemble pas tout à fait à la nôtre.
Et pour finir, nos fameux cuisiniers de Radio Star vous proposent une belle recette de sapin en chocolat pour se régaler à Noël.
Vous êtes prêts?
Alors c'est parti!
L'actu Saint-Amand.
En ce début d'année, les ateliers ont tous repris leur activité au collège. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts.
Eh oui, il y a la chorale, le théâtre, les arts plastiques pour les artistes, mais aussi l'UNSS tous les mercredis pour les sportifs. Et bien sûr, il y a notre atelier web radio.
Effectivement, et on oublie trop souvent de vous le présenter. Alors pour ce faire, nous accueillons Maë et Louise. Alors les filles, on vous écoute.
Bonjour à tous. Eh bien, nous allons vous présenter toute notre petite et très dynamique équipe de reporters. Il y a
Pablo,
Camille,
Louison,
Martin,
Marion,
Pablito,
Elliot,
Robin,
Maë
et Louise.
Côté organisation, l'atelier web radio a lieu le mercredi de midi à 13h au CDI avec Madame Tedjen, Madame Lignon et Madame Seris.
Et c'est ouvert à tous les niveaux du collège, de la 6e à la 3e.
En début de période, nous choisissons les sujets de la prochaine émission. Nous choisissons des sujets qui nous intéressent et qui sont d'actualité, comme la vie du collège, le sport, le cinéma ou des événements locaux ou mondiaux, ou encore des recettes de cuisine.
Ensuite, nous nous informons sur ces sujets par petits groupes et nous rédigeons le texte qui sera enregistré en studio.
Et quand il y a des événements dans le collège, comme le marché de Noël des primaires, la réunion des éco-délégués, des voyages scolaires, la fête de l'école, la semaine des talents et bien d'autres, nous faisons de petites interviews. On peut aussi parfois faire des interviews à l'extérieur du collège.
Il y a toujours deux présentateurs et c'est à chacun son tour de présenter s'il le souhaite évidemment.
Et enfin, lorsque tous les reportages et les textes sont prêts, nous allons nous enregistrer dans le studio de la web radio situé à côté de la classe des 5e A comme de vrais professionnels.
Il y a une très bonne ambiance entre tous les petits journalistes en herbe.
Je confirme, on s'amuse tous beaucoup.
Et vous pouvez vous y inscrire à n'importe quel moment de l'année si vous en avez envie.
Alors rejoignez-nous et n'oubliez pas de nous écouter régulièrement.
Merci les filles, c'est parfaitement clair. Alors, avis aux amateurs d'infos et de micros, vous êtes les bienvenus. Mais parlons maintenant du premier grand voyage de cette nouvelle année scolaire à Saint-Amand, le voyage en Normandie des 4e. Une semaine pour découvrir, mais aussi et surtout pour vivre et parler anglais toute la journée. Pablo a eu la chance d'y aller et Marion, tu avais quelques questions à lui poser pour en savoir plus, n'est-ce pas?
Oui, bonjour à tous. Eh bien, pour commencer, Pablo, où étiez-vous logé?
Nous étions dans un grand manoir avec de grands espaces verts et même un lac avec des crocodiles.
Des crocodiles? Vous avez parlé anglais avec eux?
Non, seulement avec les animateurs et avec les professeurs d'anglais qui nous accompagnaient.
Et les profs, justement, ils étaient sympas?
Oui, ça s'est très bien passé. Il y avait Madame Maladi, Madame Etchubroca, Monsieur Vazlink, Monsieur Firmin et aussi Lydie.
Et en quoi consistaient les activités?
On a fait de la course d'orientation, de la cuisine anglaise, des scones trop bons et encore de l'extrême.
Est-ce que vous avez visité la région?
Pas beaucoup, les activités c'était surtout au manoir, mais on a allé voir les plages du débarquement et ça c'était mon moment préféré du voyage.
Génial ça. Et justement, puisque le débarquement est au programme d'histoire des 3e, parlons un peu du brevet maintenant. Car cette année, même si les programmes n'ont pas encore changé, les épreuves et la façon de les noter vont changer. Pour mieux comprendre toutes ces nouveautés, nous accueillons Martin.
Salut à tous. Alors le diplôme national du brevet, c'est le premier examen de notre parcours scolaire. Et il sert à vérifier ce que nous avons appris tout au long du collège. Jusqu'ici, le brevet se basait sur nos compétences de l'année et sur plusieurs épreuves écrites et orales. Mais à partir de la session 2026, il y a quelques changements.
Le contrôle continue, il compte toujours, même si ce ne sont plus des compétences qui sont évaluées?
Oui, le contrôle continu sera désormais basé sur nos moyennes de l'année. Autrement dit, des notes dans toutes les matières. Et il comptera pour 40% de la note finale. Et nouveauté cette année, l'EMC compte à part entière en tant que matière avec une moyenne spécifique.
Et pour les épreuves finales, il y a du changement aussi ?
Les épreuves finales comme le français, les maths, l'histoire géo ou les sciences compteront désormais pour 60% de la note finale. Et comme désormais on se base sur les notes et non sur les compétences, il faudra avoir au moins 10 sur 20 pour décrocher le diplôme.
Et l'oral, cela reste le même ?
L'épreuve orale sera bien toujours présente. Nous présenterons un projet ou un travail fait au cours de l'année scolaire, comme c'était déjà le cas. C'est l'occasion de montrer notre personnalité et nos idées.
Et pour l'entrée au lycée, ça change quelque chose si on n'a pas le brevet ?
Non, le brevet ne sera toujours pas nécessaire pour le passage en seconde. Alors si vous êtes en troisième, préparez-vous avec sérieux, mais sans stress. Le brevet, c'est avant tout une étape sur votre parcours scolaire.
Eh bien, bon courage les troisièmes. Allez, on passe à l'actu mondiale.
L'actu mondiale.
Vous en avez certainement entendu parler dans les médias. Il y a eu un vol de bijoux d'une grande valeur au musée du Louvre récemment. Elliot va maintenant vous parler de ce braquage incroyable qui est considéré par certains journalistes comme le casse du siècle.
Alors Elliot, quand ce braquage a-t-il eu lieu ?
Le braquage a eu lieu le dimanche 19 octobre entre 9h30 et 9h37 en seulement 7 minutes.
Et comment les voleurs ont-ils pu entrer dans le musée ?
Les braqueurs étaient au nombre de 4. Ils ont pénétré dans la galerie d'Apollon depuis une rue qui donne directement sur une fenêtre de la galerie grâce à un monte-charge qu'ils avaient volé auparavant dans la ville de Louvre.
Alors là, c'est très fort. Et qu'ont-ils volé ?
Ils ont réussi à dérober un collier et une paire de boucles d'oreilles en émeraude appartenant à l'impératrice Marie-Louise, un diadème, un collier et une boucle d'oreille provenant de la parure en saphir ayant appartenu à la reine Marie-Amélie et à la reine Hortense, et une broche dite broche reliquaire.
Combien coûtent tous ces objets ?
Tous ces bijoux ont été estimés par le musée parisien à 88 millions d'euros, mais ce n'est rien comparé à leur valeur historique exceptionnelle.
Et les braqueurs ont-ils été arrêtés depuis ?
Pour le moment, les enquêtes sont encore en cours, même si certaines personnes ont déjà été arrêtées. L'un des braqueurs, Abdoulaye N, surnommé Doudou Cross Bitume, était déjà connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Il est âgé de 39 ans, père de famille, et dans les années 2000, il postait des vidéos sur Internet où il se filmait en train de faire des figures de motocross et de donner des cours de moto dans la rue. D'autres personnes ont aussi été arrêtées.
Et les bijoux ont-ils finalement été retrouvés ?
Malheureusement, aucun bijou n'a encore été retrouvé pour le moment. Cela risque d'être très difficile de les retrouver.
Quelle histoire ! Un braquage au Louvre, c'est fou ! Et pourtant, ce n'est pas la première fois que cela arrive, n'est-ce pas Robin ?
Tout à fait Pablo. Il y a 114 ans, la Joconde, le plus célèbre tableau du musée à lui, aussi été volé. Le tableau de Léonard de Vinci a été dérobé par Vincenzo Perugia le 21 août 1911. Vincenzo Perugia était un vitrier italien qui voulait voir l'œuvre la plus célèbre du peintre italien revenir dans son pays d'origine.
Et finalement, comment le tableau a-t-il été retrouvé ?
Eh bien, suite au vol, une enquête a été ouverte, au cours de laquelle le peintre Pablo Picasso a été inquiété. Mais finalement, le tableau a été retrouvé en 1913, après que le voleur a tenté de contacter un marchand d'art à Florence. La Joconde sera rendue à l'ambassadeur français à Rome le 19 décembre 1913.
Comment le tableau est-il revenu au musée du Louvre ?
Après avoir traversé triomphalement l'Italie, le tableau est revenu en France le 4 janvier 1914. De retour au musée du Louvre, l'œuvre a gagné en célébrité, parce que tous les journaux ont parlé de l'affaire.
Et il paraît même que quelque chose d'étrange s'est passé au Louvre pendant son absence.
Effectivement, pendant son absence au musée, il y a eu plus de visiteurs pour regarder l'emplacement vide de la Joconde que les années précédentes quand elle était bien là. C'est devenu une légende.
Une sacrée affaire. Et maintenant, place au débat de la Radio Star.
Le débat de Radio Star.
C'est la grande nouveauté de cette rentrée. Nous allons vous proposer un petit débat sur un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Et pour commencer, nous avons choisi un sujet qui concerne tous les élèves de Saint-Amand, le port de l'uniforme ou de la blouse à l'école.
Il y aura ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Et pour animer nos échanges, c'est Martin qui jouera le rôle de l'animateur. À toi Martin!
La blouse à Saint-Amand est une longue, très longue histoire. Si officiellement la blouse est abandonnée dans les années 1970 dans les établissements publics, elle a bien continué à être portée à Saint-Amand malgré une pause de 2 petites années après la fin du confinement lié au Covid. Le port d'un uniforme à Saint-Amand pourrait se concrétiser dès l'année prochaine à la place de la blouse. Aujourd'hui, on va voir avec toute l'équipe de la web radio qui est pour et qui est contre. Mais avant de poser ma première question aux deux équipes, Pablo et Robin sont allés interroger quelques élèves du collège pour recueillir leur opinion sur le sujet. Écoutons-les.
Il est question que l'uniforme remplace la blouse l'année prochaine. Qu'est-ce que tu en penses ?
Moi, je préférerais garder la blouse.
Pourquoi ?
Je trouve que les uniformes sont pas hyper beaux et j'aimerais bien m'habiller comme je veux.
Je suis pas trop pour avoir un uniforme. Je préfère rester avec la blouse.
Pourquoi ?
Parce que l'uniforme, ça sera moins discret et on pourra moins exprimer notre personnalité.
Je trouve ça très bien. Je pense que cela plaira à pas mal de personnes et moi, je suis ravie.
Pourquoi ?
Parce que ça changera, la blouse, y a des boutons, certaines personnes ne les ferment pas forcément. Et comme ça, l'uniforme, tout le monde aura le même et ce sera plus facile.
Je pense que je préfère les blouses parce que l'uniforme, c'est pas trop pratique.
Je choisirais la blouse parce que j'ai l'impression d'être plus libre.
Avec la blouse, en été, on a vraiment très chaud. Bon, je pense qu'avec l'uniforme, on aura un peu moins chaud, mais on aura quand même ultra chaud. Et en plus de mettre tout le temps le même habit, sans changer et tout, tandis qu'avec les blouses, ben, on met pas tout le temps les mêmes habits. Donc je pense que ça va m'ennuyer beaucoup.
Est-ce que tu préférais un uniforme complet ou juste le haut ?
Alors moi, je pense que je préférerais le haut parce que ça nous permet d'avoir notre propre style vestimentaire et je trouve que ça nous laisse quand même être libre.
Personnellement, je trouve que ça change rien.
Pourquoi ?
Bah parce que si on a juste le haut, bah à mon avis, ils vont quand même nous imposer un bas.
Je préfère l'uniforme juste le haut.
Pourquoi ?
Parce que par exemple, quand il fait chaud, on peut avoir un polo et du coup, on n'a pas besoin d'avoir la blouse.
Je préférerais un uniforme complet car en fait, tout le monde se jugerait. Donc autant avoir un uniforme complet pour pas se faire exclure ou comme ça.
D'abord, pour commencer, qui autour de la table préfère la blouse ?
Pas moi !
Pas moi !
D'accord, donc il n'y a pas grand monde qui apprécie la blouse, apparemment. Mais alors, qui serait pour un uniforme à la place de la blouse ? Commençons par Louise. Alors, que préfères-tu ?
Je suis plutôt pour l'uniforme.
Et pourquoi ?
Eh bien, c'est plus pratique que de devoir mettre la blouse tous les matins en classe. On est sûr de ne pas l'oublier et d'éviter d'observations inutiles. Mais il faudrait juste un code couleur unique pour éviter de la distinction entre les filles et les
garçons. Bah moi, je suis pas d'accord.
Peux-tu nous dire pourquoi, Pablo ?
Eh bien, contrairement à l'uniforme, la blouse, on peut l'enlever à la sortie du collège. L'uniforme, lui, on devrait le porter jusqu'à qu'on soit rentré chez nous, même dans les transports comme le bus.
Et toi, Maë, tu es pour ou contre l'uniforme au collège ?
Moi, je suis pour.
Pourquoi ça ?
Eh bien, déjà, je trouve ça plus joli que la blouse. Moi, je n'aime pas trop les petits carreaux bleu ciel de la blouse des filles.
C'est juste pour des raisons esthétiques, alors ?
Non, pas que. C'est aussi plus pratique et ça évite les différences entre les élèves. Logiquement, personne ne peut l'enlever, tu imagines ? Et donc, du coup, cela peut éviter les moqueries entre les élèves et sur leurs vêtements.
Mais tu as vu combien coûte un lot ?
Elliot, je sens que tu as un scoop. Vas-y, dis-nous.
Eh bien, d'après mes informations, un lot coûterait aux alentours de 135€, alors que la blouse coûte aux alentours de 25€. Vous voyez la différence ? Surtout pour les familles nombreuses qui ont un budget limité. Et en plus, il faut rajouter à cela le prix de la scolarité.
Oui, mais cet uniforme, on peut le garder au minimum 2 ans, donc c'est pas si terrible.
Et toi, Camille, tu es pour ou contre l'uniforme ?
Moi, je suis pour si l'uniforme est joli et qu'il y a un ruban avec une cravate ou avec une jupe. Comme dans les pays anglo-saxons ou comme au Japon. Même s'il y a juste un t-shirt et avec un pull avec le logo du collège dessus, franchement, je n'ai pas envie de le porter. Et moi aussi, je pense que si on achète l'ensemble en entier, cela va coûter très cher. Donc je suis pour et contre en même temps.
Et Marianne, tu en penses quoi ?
Moi, je suis contre. Je pense que cela gênerait de la porter dans le bus parce que tout le monde nous voit et sait que je suis à Saint-Amand. Ça fait un peu bizarre. En plus, on grandit et notre corps change. Donc, on devra changer régulièrement notre uniforme. Et voilà, je suis contre.
Je suis d'accord avec Marianne. En effet, je trouve que le haut de l'uniforme, c'est pas assez. Il vaut mieux avoir un uniforme complet, parce que le but d'un uniforme, c'est bien qu'il n'y ait pas de différence et de discrimination, non ?
Eh bien, difficile de mettre tout le monde d'accord, comme vous le voyez. Quoi qu'il en soit, c'est le conseil d'établissement qui regroupe des membres de la direction, des parents, des professeurs et des élèves qui prendra la décision finale. On le saura sans doute très prochainement, alors restez à l'écoute de Radio Star pour en savoir plus.
Merci Martin d'avoir animé ce premier débat. On passe à la suite de l'émission.
La Minute Anglaise.
And now, nous allons parler shopping et tradition dans la Minute Anglaise. Vous avez fait chauffer la carte bleue pour le Black Friday ? Eh bien, Pablo nous explique tout de suite d'où vient cette tradition. So first, Pablo, can you remind us what the Black Friday is?
Of course. Black Friday is the day after Thanksgiving in the United States. It's one of the biggest shopping days of the year. Stores and websites offer huge discounts and millions of people go shopping or buy online.
And why do we call it the Black Friday?
In the early 1960s, police in Philadelphia called the day after Thanksgiving Black Friday because it was very chaotic. Large crowds of shoppers and fans of the Army-Navy football game filled the city, causing traffic jams, accidents, and shoplifting. It was a mess.
That sounds crazy, but how did the name become something more positive then?
In the late 1980s, stores promoted the idea that Black Friday was the day they went from in the red to in the black, which means that they made their biggest profits of the year on that day. It is now presented as the year's biggest shopping day, even though most stores really make their highest sales on the Saturday before Christmas.
And what about today?
Now it's a global event. After Black Friday, we have Small Business Saturday, Cyber Monday, and Giving Tuesday. But there are also consequences like overconsumption, pollution from deliveries, and a lot of waste.
So it's good for business, but not always good for the planet.
Exactly. That's why more people try to buy less or support local shops instead.
Thank you, Pablo. Et maintenant, poursuivons notre voyage avec la rubrique Un pays, une tradition.
Un pays, une tradition.
Direction un pays qui fait beaucoup rêver maintenant, le Japon. On connaît tous un peu la culture japonaise, notamment grâce aux mangas et aux animés. Mais il y a beaucoup de choses à découvrir.
Camille, qui est aussi japonaise, va nous faire découvrir aujourd'hui l'école japonaise et son fonctionnement. Alors Camille, commençons par les horaires. C'est différent de la France au Japon ?
Konnichiwa, oui, c'est un peu différent. Les élèves japonais ont cours du lundi au vendredi, généralement de 8h30 à 15h30, et deux samedis matin par mois. Les cours durent 50 minutes et sont entrecoupés de pauses de 5 minutes. La coupure pour le repas de midi est très courte, 35 minutes.
Et les matières, ce sont les mêmes ?
Au Japon, il y a des matières classiques comme le japonais, les maths, l'anglais, les sciences, l'histoire géo, l'économie, mais aussi le sport et l'art. Au début de la seconde année, l'élève choisit entre la section scientifique ou la section littéraire, mais on ne lui pose quasiment aucune option.
Et les activités extrascolaires, c'est à l'école ou en dehors ?
C'est surtout dans les établissements scolaires que cela se passe. Les écoles japonaises ont beaucoup de clubs de sport. Par exemple, chaque année, il y a un tournoi national et les élèves représentent leur établissement. Les principaux sports pratiqués sont le kendo, le judo, le kyudo, mais aussi le karaté, beaucoup de baseball, du basket, de la natation, du football et du tennis. Il y a aussi des clubs de musique, d'art, de littérature ou de chant. Les établissements sont donc très équipés avec des piscines, des terrains de tennis, de basket et des gymnases.
Et la cantine, ça se passe comment ?
Au Japon, les repas scolaires se composent généralement de soupe, de légumes, de poissons, de viande et de riz préparés sur place avec des ingrédients frais et complets. Tous les élèves se voient servir le même repas et le déjeuner est pris ensemble dans la classe. Chaque semaine, des élèves à tour de rôle mettent leur tablier, prennent le récipient et servent les élèves. D'autres mettent et essuient les tables, mais les élèves apportent chacun leur couvert.
Il y a d'autres tâches ménagères, comme nous qui faisons le ménage le soir.
Chaque semaine, tous les élèves se partagent le travail. Ils utilisent des balais et des chiffons pour nettoyer les salles de classe et les espaces communs, tels que les couloirs, les escaliers et la zone où ils laissent leurs chaussures pour les changer avec des ouabaki, des petites ballerines spéciales, lorsqu'ils entrent dans l'école. Ces traditions contribuent à maintenir la propreté des locaux scolaires en évitant que la saleté et les débris ne soient ramenés de l'extérieur.
Et puisque nous parlions tout à l'heure, les élèves portent-ils un uniforme au Japon ?
Oui, tous en uniforme. Les tenues sont adaptées aux saisons. Il y a l'uniforme d'été, en général il s'agit d'un pantalon droit pour les garçons avec une chemise blanche, tandis que les filles portent une marinière avec un foulard. L'uniforme se compose d'une jupe ou d'un pantalon, et le haut de la tenue comprend un pull ou un gilet. Il y a aussi des tenues pour le sport. Les élèves à l'école primaire, eux, ont aussi des lames de cellule, des sacs à dos en cuir soudant rouge ou noir. Ils sont obligatoires pour tous.
Et est-ce qu'ils ont les mêmes vacances que nous ?
C'est un peu différent. L'année scolaire au Japon débute le 1er avril pendant la floraison des cerisiers. Ensuite, elle se découpe en deux ou trois périodes. Les vacances sont plus courtes au printemps et en hiver. Il y a donc une interruption de 6 semaines durant l'été. Pas autant de vacances que nous, donc.
Merci beaucoup, Camille. Ça donne vraiment envie d'aller découvrir ça en partant au Japon.
Minasan, kiite kurete arigatou gozaimashita.
La cuisine de Radio Star.
Pas question de terminer cette émission sans obtenir une bonne recette de cuisine pour se régaler à Noël.
Pour ça, à Radio Star, on peut faire confiance à notre équipe de cuisiniers en or.
T'en es sûr ?
Claudette, je n'ai pas de sapin de Noël pour cette année. Je suis foutue.
Ne t'inquiète pas, Gérard. Je vais t'en faire un que tu pourras manger. Tu m'en diras de nouvelles.
Comment tu vas faire ?
Alors, il va nous falloir des ingrédients. Tout d'abord, 4 œufs.
Et 200 g de chocolat.
150 g de sucre.
Sans oublier 80 g de farine.
Allez, on y va. D'abord, il vous faut faire fondre le chocolat et le beurre, puis mélanger le tout.
Ensuite, versez la pâte dans un moule rond et faire cuire à 180 degrés.
Puis, il faut découper le gâteau en 8 parts égales.
Et pour lui donner une forme de sapin, comment on fait ?
Alors, il faudra mélanger 20 g de blanc d'œuf et 120 g de sucre glace pour la décoration. Avec une poche à douille, vous dessinez des guirlandes sur chaque part comme si c'était un sapin de Noël. Et pour plus de décoration, vous pouvez rajouter du vermicelle.
Oh merci, grâce à toi, j'aurai un sapin de Noël. Tu m'as sauvé de la colère de mes petits-enfants.
Vous avez bien noté la recette ? Moi j'espère que Claudette et Gérard vont m'en apporter pour fêter la nouvelle année.
Moi aussi, mais en attendant, on vous remercie à tous de votre attention et toute l'équipe de Radio Star se joint à moi pour vous souhaiter un joyeux Noël et une très belle fête de fin d'année.
Iku dismasu, sugoshite kudasai.
Fraulein Kirschfeist.
Merry Christmas.
Feliz Navidad.
Et Guberion.
Joyeux Noël, Noël.